Chapitre 9e, le bel été. La maison de Varvara Petrovna avait repris avec l'arrivée d'Ariane son animation. Le docteur Michel Ivanovitch était là chaque jour et s'arrangeait souvent pour venir et dans l'après-midi et dans la soirée. Il ne cachait pas le plaisir qu'il avait à retrouver Ariane et Varvara Petrovna n'en concevait aucune jalousie. Entre Olga Dmitrievna et Ariane, c'était la même intimité que naguère. Olga était la seule personne qu'Ariane gardait, même à distance, pour confidente. Aussi était-elle au courant de la liaison malencontreuse avec l'acteur célèbre, dont toutes les femmes de Russie rêvaient, et de l'aventure brève, mais éclatante, avec Constantin Michel qu'elle appelait le grand prince. Le voyage de Crimée, bien qu'Ariane en parla sur le ton de détachement qu'elle apportait au récit de sa vie amoureuse, lui semblait une histoire brodée d'or et de soie, telle qu'on en lit dans les contes orientaux. Ensemble, elles fréquentaient le théâtre de l'été et se montraient sur les terrasses animées du jardin Alexandre. Elles soupaient avec leur compagnie, comme elles l'appelaient, qui n'était pas moins brillante que celle de l'an passé. Olga Dmitrievna paraissait même ne plus craindre l'ingénieur Michel Bogdanov. Au cours de l'absence d'Ariane, il avait su la gagner. Il s'était rapproché d'elle, parce qu'elle était la seule amie véritable de celle qu'il continuait d'appeler la reine de Saba, et dont il ne pouvait se passer de parler. Par mille moyens ingénieux, et en particulier par des cadeaux auxquels Olga était fort sensible, il se l'était attaché. Il l'avait convaincu qu'il avait pour Ariane non un caprice passager, mais les sentiments les plus sérieux, et qu'il tenait à cette dernière de devenir au jour où elle le voudrait, Madame Michel Bogdanova. Olga, dans chacune de ses lettres, vantait les mérites de l'ingénieur, sa générosité, la supériorité de son intelligence, et félicitait Ariane Nikolaevna d'en avoir fait la conquête. Aussi Olga ne mettait-elle plus d'obstacle au rendez-vous que l'ingénieur sollicitait d'Ariane. Chose curieuse, celle-ci continuait à aller le voir chez lui, deux fois par semaine, mais au crépuscule, pour éviter le retour possible d'un scandale comme celui de l'an dernier. Elle arrivait à la petite maison du faubourg, souvent accompagnée d'Olga Dmitrievna qu'elle laissait à la porte. À peine entrée, Ariane détachait sa montre-bracelet, cadeau de Constantin Michel, et la posait sur un guéridon bien en vue. « Il est exactement 6 heures, disait-elle. Une heure plus tard, sans jamais tarder, on la voyait sortir de la maison et Olga Dmitrievna la plaisantait sur le compte strict d'elle-même qu'elle tenait, n'ajoutant jamais une minute aux 60 qu'elle devait à l'ingénieur. Les affaires sont les affaires, et où mettrait-on de l'exactitude, si ce n'est dans ses rapports avec son banquier, disait volontiers Ariane. Varvara Petrovna observait sa nièce. Elle la trouvait changée, plus sérieuse. Il y a quelque chose de nouveau en toi, disait-elle, et d'indéfinissable. Tu n'es pas amoureuse au moins. Ariane éclatait de rire, tant la supposition lui paraissait folle. « C'est une maladie qui n'est pas de mon âge, mais du tien, » répondait-elle en taquinant sa tante. Nikolaï Ivanov avait quitté la ville depuis 3 mois. On ne l'avait pas vu de l'hiver. Il s'était enfermé dans sa propriété, puis il était parti pour la Crimée où, soi-disant, la santé de sa mère exigeait sa présence. Mais on assurait qu'il avait l'esprit dérangé et qu'il était lui-même en traitement chez le spécialiste qui soignait Madame Ivanovna mère. Des cartes postales arrivaient quotidiennement à l'adresse d'Ariane qui les jetait sans les lire. Elle se faisait courtiser par un beau jeune homme auquel elle jouait 1000 tours et dont elle se moquait avec cruauté. Varvara Petrovna ne s'était pas trompée en remarquant que sa nièce avait changé. Elle menait en apparence la même vie que l'année précédente, mais elle n'y apportait plus l'entrain endiablé qui l'avait rendue célèbre dans la ville. Certes, elle était encore la compagne la plus étincelante qu'on pût avoir au souper du jardin Alexandre. Elle n'avait jamais épargné personne. Mais ses railleries semblaient maintenant plus cruelles. Les pointes acérées qu'elle décochait pénétraient plus avant. Ni Jean ni Théorie ne tenaient devant sa critique à l'emporte-pièce. Comme Méphistophélès dans le Faust de Goethe, elle aurait pu dire « Je suis l'esprit qui nie tout ». Cependant, elle sortait moins fréquemment. Elle restait chez elle à rêver sur son divan. Elle pensait à Constantin Michel. Il différait des hommes dont elle était entourée, même par l'élégance de la tenue, même par une certaine aisance de manière, qui lui permettait de tout faire sans tomber dans la vulgarité. Mais c'était à d'autres mérites qu'il devait la place qu'il occupait dans ses pensées et le rang premier qu'elle lui reconnaissait. Elle sentait en lui une force constante qu'elle ne contrôlait pas. Avec les autres hommes, elle jouait un instant, puis, déboutée avant d'en être lasse, elle les faisait retomber dans leur néant. Avec Constantin, il en était autrement. Elle ne s'était pas amusée de lui, mais lui d'elle. Sans doute, pour de brefs instants, elle avait su l'exaspérer, mais pas une minute il n'avait perdu son détestable sang-froid. Et qui avait-elle gagné? S'était-il attaché à elle plus profondément qu'on ne s'attache à une fille jeune et jolie dont on fait son plaisir? Il l'avait prise quand il l'avait voulu, et l'avait quittée au jour choisi par lui. Elle s'était donnée à l'heure qu'il avait fixée. Elle n'avait pas manqué à un des rendez-vous de l'Hôtel National. Mais il a vu l'audace une fois, à la dernière minute, de la décommander. Il était revenu le lendemain. Il était parti pour Kiev à sa convenance. Il l'avait emmené en Crimée comme il lui avait plu. Elle y avait dépassé de 15 jours le temps bref dont elle disposait. Mais Constantin, à la minute où était arrivé un télégramme le rappelant, avait arrêté la date de leur départ sans la consulter. Il l'avait abandonnée à Moscou sans lui accorder un jour de grâce qu'elle n'aurait du reste sollicité au prix de sa vie. Olga Dmitrievna avait raison, il était le grand prince, il le savait. Elle avait la faiblesse de lui laisser comprendre qu'elle reconnaissait ses droits supérieurs. Il dirigeait, elle obéissait. Ce mot de la bouche d'Ariane ne la faisait pas lire de rage. « Que doit-il penser de moi ? » disait-elle. « Il me traite comme son esclave. Où en est-il à cette heure ? Quelle femme gagne-t-il par son assurance infernale ? Ah, si jamais je le retrouve, il paiera cher les humiliations qu'il a osé me faire subir. Je saurai me venger de lui. » Ariane en était à ce point de ses réflexions lorsqu'elle reçut un jour un télégramme laconique. Il était daté de New York et disait simplement « Serai dans un mois à Moscou, à bientôt, Constantin Michel, Plaza Hotel. » Il n'a même pas la politesse d'ajouter tendresse ou 1000 baisers, gronda-t-elle furieuse. « Certes, je ne le reverrai pas. Pour qui me prend-il? Croit-il que j'attends après lui? Dieu me garde de répondre à ce télégramme insolent. » Le télégramme était arrivé vers midi. Vers le soir, elle sortit en compagnie d'un de ses amis. Jamais elle ne fut plus aimable avec ce jeune homme insignifiant qui, à entendre Ariane et à voir la façon dont elle le regardait, ne douta pas de toucher enfin un bonheur longtemps espéré. Ils se promenèrent au crépuscule dans la Dvoranskaya. Comme il rentrait et qu'il passait devant le télégraphe, Ariane dit soudain « Excusez-moi un instant ». Elle poussa la porte et pénétra dans le bureau. Il la suivit. Rapide, elle écrivit l'adresse de Constantin Michel à New York et sous l'adresse un seul mot « Hourra ». Elle ne signa pas, jeta le télégramme au guichet avec de l'argent et s'enfuit comme si elle était poursuivie.